Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source qui est une véritable machine à remonter le temps. C'est le bulletin numéro 81 du Cartoclub Aveyronnais.
Bonjour. Et oui, c'est une exploration passionnante des métiers, des savoir-faire qui ont tout simplement disparu en Aveyron.
Exactement. Et tout ça, c'est raconté non pas par des historiens, mais à travers une collection de cartes postales anciennes. La mission ici, ce n'est pas vraiment la nostalgie. C'est plutôt d'essayer de comprendre cette société rurale juste avant les grandes transformations du XXe siècle.
Pour éclairer un peu notre monde d'aujourd'hui, en fait.
Voilà.
Et c'est une approche vraiment unique. La carte postale, qu'on voit souvent comme un simple souvenir, elle devient ici une archive visuelle, un vrai document sociologique.
C'est ça.
Le bulletin, il s'appuie sur une analyse très fine de deux annuaires départementaux. Un de 1913 et un de 1948.
Deux dates clés.
Oui, juste avant et juste après les deux guerres mondiales. Ça permet vraiment de mesurer l'onde de choc de la modernisation sur des modes de vie qui, à l'époque, semblaient immuables. C'est une photo avant-après la grande bascule.
Et il faut dire que derrière ce bulletin, il y a un travail d'amateur, de vrais passionnés. On se doit de remercier les contributeurs. Je pense à Pierre Costecalde, un ancien gantier.
Ah oui, son témoignage est inestimable sur les métiers du cuir à Milou et sur l'histoire de la maison Janquet.
Absolument. Il y a aussi Jean-Claude Vidal-Garic, qui a été le dernier linotypiste de Rodez. Il nous partage ses souvenirs et il nous fait découvrir l'étonnante foire à la sauvagine.
On a aussi Yves Casiwan, qui nous fait revivre un métier incroyable, celui de l'anguilleur. On en reparlera.
Un nom déjà tout un programme.
Et Alain Bouza, qui documente l'activité des nourrices à Cassagne-Bégognès.
Et bien sûr, impossible de ne pas saluer la mise en page de Guy Mazard. Le bulletin est non seulement instructif, mais il est très agréable à lire.
Oui, tout à fait. Et puis, un grand merci, évidemment, à tous les collectionneurs. Sans leur carte postale, cette conversation n'existerait tout simplement pas.
C'est dit. Alors, commençons par le début, si on peut dire. La terre, le monde agricole. La première image du bulletin qui m'a vraiment marqué, c'est celle du loraire, le laboureur, avec son attelage de bœuf au braque.
Une image presque biblique, oui.
C'est ça. On sent une lenteur, une force, le poids des siècles, quoi. Et d'un coup, cette image est fracassée par une innovation.
La charrue Brabant.
La charrue Brabant.
Et c'est bien plus qu'un simple outil. Elle est réversible, c'est-à-dire que le laboureur n'a plus à revenir à vide.
Ah d'accord, il peut faire des allers-retours.
Exactement. Et concrètement, ça veut dire que le temps de labour est divisé par deux.
C'est une révolution.
C'est une révolution de la productivité. Mais le bulletin montre bien, avec une citation du romancier Roger Béteille, que ça a aussi été une révolution culturelle, un vrai conflit de génération.
Racontez-nous ça.
Eh bien, dans son roman « L'orange aux girofles », il y a une jeune femme qui se plaint de son père. Il s'obstine à utiliser la vieille arrière, l'outil ancestral.
Le gratte-caillou.
Voilà. Et elle dit « J'ai crié contre lui une bonne partie de la nuit et il vient de renoncer. » Et son ami lui demande incrédule « Il va labourer avec le Brabant ? Ce serait un événement ?»
On sent la tension.
Ah oui. Pour les anciens, l'arrière, c'est la tradition, le geste juste. Pour les jeunes, le Brabant, c'est l'efficacité, c'est l'avenir. C'est vraiment le vieux monde contre le nouveau.
C'est dingue qu'un simple outil ait pu créer autant de tensions familiales. Et j'imagine que cette résistance, elle n'était pas toujours que verbale.
Pas du tout. Et là, on a une anecdote qui fait vraiment écho à nos débats actuels sur la technologie. En 1903, à Vorse, des ouvriers agricoles apprennent qu'une moissonneuse mécanique a été livrée.
Et alors ?
Dans la nuit, ils vont la détruire.
Carrément.
Oui. Ils n'y voient pas un outil pour soulager leur peine. Ils y voient une concurrente qui va leur voler leur travail.
C'est une réaction qui nous semble presque primitive. Et pourtant, c'est la même angoisse qu'aujourd'hui face à l'intelligence artificielle, à l'automatisation.
Vous mettez le doigt dessus. C'est une peur fondamentale. Et pour eux, elle était justifiée.
Oui, bien sûr.
La mécanisation a complètement changé le paysage social. Avant, la moisson, c'était un événement collectif. Il fallait des séguères, des moissonneurs à la fossile, la falce, et puis des lières pour faire les gerbes.
Tout un groupe.
Et voilà. Et avec la moissonneuse-lieuse, deux hommes suffisaient. C'est tout un monde de solidarité, de rites sociaux qui disparaît.
Et le bulletin montre d'autres gestes, d'autres sons qui ont disparu. Il y a cette carte postale magnifique de Gene Viala.
Ah oui.
On y voit un faucheur, le Dayerer, qui est en train de battre sa faux. Il martèle l'alarme pour raviver le fil. J'essaye d'imaginer ce son, métallique, régulier, qui devait rythmer les étés dans toutes les campagnes.
Le son qui a été remplacé par le bruit des moteurs, hein. Et après la récolte, il y avait un autre art, la construction du gerbier, le garbière.
Ce n'était pas juste un tas de foin.
Ah non, c'était une véritable architecture, pensée pour que la pluie glisse dessus sans jamais atteindre le cœur. Ça protégeait le grain pendant des mois.
Une assurance vie, en quelque sorte.
Complètement. Rater son gerbier, c'était risquer de perdre toute la récolte de l'année.
C'est vertigineux de penser que tous ces savoir-faire ont disparu en une seule génération. Mais changeons de décor. Le bulletin nous emmène en ville, à Milou.
Oui, dans le monde du cuir. Et là, le témoignage de Pierre Costecalde est précieux. Il nous plonge dans tout l'écosystème de Milou.
Qui tournait autour de la brebis Laconne.
Rien.
Et en parlant de ne rien jeter, c'est là que ça devient, disons, plus olfactif. Les techniques de l'époque sont à des années-lumière de nos standards d'hygiène. Attendez, il faut que je comprenne bien. Pour tanner les peaux, on utilisait de l'urine et des excréments de chiens.
C'est à peine incroyable, n'est-ce pas? Mais oui, c'est de la chimie empirique. L'urine, en se décomposant, elle produit de l'ammoniac. C'est un dégraissant et un assouplissant très puissant.
Et il y avait des gens chargés de la collecter?
Oui, les pisserts, c'était des femmes, payées pour faire la collecte dans les rues.
Incroyable. Et les crottes de chien?
Elles contiennent des enzymes, des pancréatines, qui aidaient à rendre la peau parfaitement lisse et souple. Des gamins étaient chargés de les ramasser.
C'est à la fois fascinant et un peu révoltant. J'imagine les conditions de travail, l'odeur dans ces quartiers de tanneurs.
Ah, ça devait être apocalyptique, sans aucun doute. Mais c'est de cette alchimie improbable qu'est née une industrie de luxe. Et cette industrie, c'était le poumon économique de la ville.
Et social aussi.
Et social, oui. C'est un secteur qui a été à l'avant-garde des luttes sociales. La corporation des cuirs et peaux de Millau a obtenu les congés payés dès 1923 dans certaines boîtes, bien avant le Front populaire.
Mais ça n'a pas dû se faire sans mal.
Oh non. Au prix de grèves très, très dures. Celle de 1934-35, par exemple, où le gouvernement a envoyé les gardes mobiles à cheval. Les ouvriers les avaient surnommés les casques. Oui. Et le fleuron, c'était la maison Jeanquet, la plus grande fabrique d'Europe. Plus de 1000 salariés. Un géant.
Et comment un tel empire a-t-il pu s'effondrer ?
C'est une combinaison de facteurs, en fait. D'abord, la concurrence des pays à bas coût. Ensuite, la mode a changé radicalement. Le gant s'est devenu occasionnel.
Mmh.
Et puis, l'arrivée du simili-cuir, le Sky, une alternative bon marché. L'usine Jeanquet, ce symbole, a fermé ses portes en 1971.
La fin d'une époque.
Complètement.
Et en dehors des usines, il y avait les foires, les marchés. Et là, on rencontre des personnages incroyables. Je pense au Langueilleur, rien que le nom. Quel était son rôle?
Alors, le Langueilleur, c'était un expert non officiel, mais essentiel, du marché aux cochons. Sa mission, comme nous le décrit Yves Cajouenne, c'était de détecter la laderie.
C'est-à-dire les larves du ténia, du ver solitaire.
Exactement. Une maladie transmissible à l'homme et très dangereuse à l'époque. Il était le garant sanitaire de la transaction.
Et comment il faisait? Juste avec sa main, c'est ça?
Juste avec sa main. La scène est très visuelle, l'animal est couché, on lui ouvre la mâchoire avec un bâton et le langueur passe sa main sous la langue du cochon.
Et il palpe.
Il palpe, à la recherche de petites vésicules, les larves. S'il en sent une seule, il déclare le cochon ladre et la vente est annulée sur le champ.
Son verdict était sans appel.
Sans appel.
C'est fou d'imaginer ça. Toute une économie de la confiance qui reposait sur le sens du toucher d'un seul homme au milieu du bruit d'un marché.
C'était le contrôle vétérinaire avant l'heure. C'est un métier dont on trouve des traces dès le XVIe siècle. Il a disparu avec les contrôles systématiques en abattoir.
Il y a une autre scène de foire que le bulletin fait revivre.
La foire à la sauvagine.
Ah oui, le rendez-vous des trappeurs. Ils vendaient les peaux des animaux qu'ils avaient piégés. Renards, blaireaux, fouines.
Les prix cités pour les années 30 sont assez parlants. Une peau de renard, c'était jusqu'à 150 francs. Une belle peau de martre, jusqu'à 500 francs.
Une petite fortune pour l'époque.
Ah oui, ça montre à quel point l'économie rurale était diversifiée. Pour beaucoup de paysans, c'était un complément de revenu indispensable, basé sur une connaissance intime de la faune. Une économie parallèle, quoi.
Et évidemment, tout le monde ne restait pas en Aveyron. Le bulletin évoque aussi la grande émigration vers Paris, après 1870.
C'est de là que vient l'image du bougnat parisien. À l'origine, ces émigrés aveyronnais, c'était souvent des livreurs de bois, et de charbon. Des carbonnières, en occitan.
D'accord.
Et puis, petit à petit, ils ont économisé et ils ont ouvert leur propre boutique.
ces fameux cafés, vin et charbon.
Il y a une carte postale très poétique qui illustre un autre de ses métiers. Un cousin aveyronnais en costume d'allumeur de réverbère en 1902.
Ah oui, je la vois.
On le voit avec sa longue perche dans les rues de Paris. Il y a quelque chose de beau et de très mélancolique. Ce métier qui amène la lumière, mais qui est destiné à s'éteindre avec l'électricité.
C'est une très belle image, oui. Et à côté de ceux qui partaient loin, il y avait ceux qui sillonnaient les campagnes, les itinérants.
Le rémouleur, l'amolaire.
Oui, avec sa meule à pédale. Le rétameur, l'estamer, qui redonnait vie aux casseroles en cuivre. Ils apportaient des services essentiels dans les zones isolées.
Mais ils n'étaient pas toujours bien vus.
Non, et c'est le côté plus sombre que le bulletin révèle aussi. Une carte postale montre des montreurs d'ours. Et la légende est « sans appel, voyageur indésirable ».
C'est une violence.
C'est très direct. Ça témoigne de la méfiance des sociétés rurales envers les nomades, les étrangers, ceux qui ne faisaient que passer. L'itinérant, même utile, était souvent associé à la suspicion.
C'est un reflet assez cru des mentalités.
Oui.
Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous apprend ? On a croisé un laboureur, un gantier, un expert en langue de cochon. Le point commun, c'est que tout cet univers a été balayé en quelques décennies.
C'est exactement la réflexion finale du bulletin. Cette évolution, elle a apporté un confort matériel indéniable, une pénibilité au travail bien moindre. Personne ne regrette la dureté de ces vies. Hein.
Non, bien sûr.
Mais connaître ce passé, ce n'est pas pour l'idéaliser. C'est une passerelle indispensable pour comprendre d'où l'on vient et pour mesurer la profondeur des transformations qui ont façonné notre présent.
C'est une façon de regarder le passé sans nostalgie stérile. Pas un âge d'or perdu, mais les fondations, parfois étranges, sur lesquelles notre monde s'est bâti.
Précisément. Et d'ailleurs, le bulletin se conclut sur une citation de Voltaire, de Candide. Il faut cultiver notre jardin. Et dans le contexte de ce voyage, cette phrase, elle résonne d'une manière assez particulière.
C'est vrai. Ça nous laisse avec une question pour la route. Dans un monde où tant de nos métiers sont dématérialisés, où nos outils sont des écrans, qu'est-ce que ça signifierait aujourd'hui pour chacun de nous cultiver son jardin ? Quel savoir-faire manuel ? Quel lien au tangible ? Quelle connaissance locale mériterait d'être redécouverte ? Pas pour fuir notre époque, non. Mais peut-être juste pour s'y sentir un peu plus ancré.